Et les matins débutent avec le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un témoignage choc ce matin, celui de l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen. Il dépeint une image terrible du président américain face à la Chambre des représentants. Une audition qui scinde un peu plus le Congrès américain, nous expliquera Loïc Loury.
Et puis au Cameroun, l'opposant Maurice Kanto doit être jugé par un tribunal militaire pour hostilité contre la patrie et insurrection. Il encourt la peine capitale pour s'être opposé au président réélu Paul Biya.
En France, les députés de la majorité veulent assouplir la vente des médicaments, même sans avoir d'ordonnance. Les pharmaciens pourraient se passer du document du médecin pour délivrer certains médicaments et en cas d'urgence. Explication de Solène Lehen. Et après ce journal, Guillaume, la question du jour à 7h15.
Syrie, la coalition internationale a-t-elle fait fausse route? On posera la question au stratégiste et historien Michel Goya.
C'est un portrait au vitriol dressé par l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen. Un raciste, un escroc et un tricheur. Voilà en substance ce qu'il a déclaré hier devant une commission d'enquête de la Chambre des représentants. Michael Cohen est revenu aussi sur les affaires qui éclaboussent le mandat de Donald Trump. Les parlementaires américains restent toutefois divisés sur son cas, Loïc Loury.
Un témoignage accablant pour le président, mais à l'arrivée, peu de preuves tangibles de la part de l'ex-avocat. Voilà le bilan de ces 7 heures d'audition. Le républicain Jim Jordan dénonce un complot des démocrates.
Michael Cohen délire. Il explique que c'est lui qui a lancé la campagne présidentielle de Donald Trump. Tout cela parce qu'il a créé je ne sais quel site internet en 2011. Alors je crois qu'on ne peut rien croire de ce qu'il raconte. Je pense que c'était la première étape du plan fou vers la destitution des démocrates.
À aucun moment, pourtant, l'opposition n'a évoqué la déchéance de Donald Trump. Le démocrate Elijah Cummings a conduit cette audition. Il s'est exprimé en sortant.
Ne trouvez-vous pas intéressant que pas une personne, pas une, dans nos rangs, n'ait ne serait-ce qu'évoqué ce mot d'impeachment? Pas une, pas une. Eux l'ont fait, mais pas nous. Ce n'est pas la fin de l'affaire, ce n'est que le début.
Le début de la fin pour le président. L'ex-gouverneur républicain Chris Christie s'inquiète en effet pour la suite. Son parti, dit-il, s'est peut-être trop concentré sur Michael Cohen.
Ce qui est intéressant, c'est que pas un républicain jusque-là n'ait défendu le président sur le fond. Et je pense que ce devrait être une source d'inquiétude pour la Maison-Blanche. Pourquoi aucun républicain ne se lève-t-il pour défendre le président? Soit c'est un échec de ces mêmes élus du Capitole, soit de la Maison-Blanche.
L'ex-avocat lui sera encore entendu aujourd'hui à huis clos. Il purgera bientôt une peine de prison pour avoir notamment menti il y a des mois face au Congrès.
Loïc Loury et Donald Trump a réagi sur Twitter en dénonçant les mensonges de Michael Cohen dans le but justement de réduire cette peine de prison. Il faut dire que ces premiers mensonges de Michael Cohen devant les parlementaires ne jouent pas en sa faveur, d'autant plus qu'il n'apporte pas de preuves pour corroborer son témoignage, explique Corentin Célin. Il est historien et spécialiste des États-Unis.
On a vu un Michael Cohen très sévère envers Donald Trump, mais renvoyé dans les cordes et renvoyé systématiquement, en particulier par les élus républicains, à son statut de criminel, de personne qui va partir en prison et à qui on ne peut pas faire confiance, et surtout qui n'a pas d'éléments objectifs, de preuves forts pour soutenir ses opinions.
J'ai menti, mais je ne suis pas un menteur, a-t-il dit.
Cette formule, on voit bien qu'il a été préparé par son avocat Lenny Davis, et on voit bien qu'il a essayé de placer des formules, sauf que ces formules se sont un petit peu retournées contre lui, en particulier celle-ci, puisque un des représentants républicains lui a fait remarquer que s'il avait déjà autant menti, c'était bien qu'il était un menteur.
Le spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, avec Nathanaël Charbonnier. Le président américain qui se trouve, lui, toujours à Hanoï, au Vietnam, pour le sommet avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Les deux hommes vont signer un accord conjoint d'ici une heure, mais aucune grande avancée n'est attendue en matière de dénucléarisation de la péninsule. « Je ne suis pas pressé de parvenir à un accord », a déclaré Donald Trump, tandis que Kim Jong-un annonce qu'il fera de son mieux pour un accord satisfaisant. Les États-Unis qui souhaitent également une résolution de l'ONU sur la situation au Venezuela. Un projet est soumis à l'organisation aujourd'hui. Il demande des élections présidentielles libres, justes et crédibles et la livraison d'aide humanitaire sans entrave. Les Russes russes devraient opposer leur veto. Ils présenteront d'ailleurs une résolution concurrente demandant la neutralité du Conseil de sécurité. Les Russes craignent en effet une intervention américaine pour déloger le président Nicolas Maduro. L'ONU ou la France, le Royaume-Uni et les États-Unis demandent des sanctions contre le groupe islamiste responsable de la mort de 40 militaires indiens. Ils ont demandé son inscription sur la liste onusienne du terrorisme. Cette attaque est à l'origine d'une crise entre l'Inde et le Pakistan. L'espace aérien pakistanais est désormais fermé après que plusieurs avions ont été abattus par les deux pays. L'ONU appelle d'ailleurs les deux pays à la désescalade dans leur conflit.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Maxime Fayol. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto est en prison depuis plus d'un mois et toujours en attente de son jugement.
Arrêté fin janvier après des manifestations dans le pays, il dénonce la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle comme un hold-up. Il doit être jugé par un tribunal militaire, Valérie Crova, et il risque la peine maximale.
Hostilité contre la patrie et insurrection, telles sont les charges qui ont été retenues contre Maurice Kamto. À 65 ans, cet ancien ministre de la Justice et avocat avait revendiqué la victoire lors du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Mais le Conseil constitutionnel, proche du pouvoir camerounais, a validé sans surprise la réélection de Paul Biya à plus de 70%. Un hold-up électoral avait commenté son principal adversaire. Adil Saban est l'un des avocats français de Maurice Kamto.
On ne fait pas toute une vie de carrière comme professeur éminent de droit international pour s'inventer une victoire à une élection présidentielle, ça ne tient pas debout. Tout avait été fait pour organiser le caractère immuable du pouvoir de Paul Biya.
Depuis, les manifestations de soutien à Maurice Kamto ont été interdites et plusieurs cadres de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ont été arrêtés en même temps que lui. Ils doivent comparaître devant le tribunal militaire de Yaoundé, qui n'est pas compétent pour juger des civils.
L'idée, c'est d'intimider toute personne qui voudrait remettre en cause le pouvoir de Paul Biya. Il faut quand même rappeler aujourd'hui que Maurice Kamto et les militants qui ont été arrêtés risquent la peine capitale.
Si elle existe encore, la peine de mort est soumise à un moratoire au Cameroun. Mais pour ses défenseurs, on veut décapiter la principale force d'opposition camerounaise à travers la figure de Maurice Kamto, d'autant que des élections législatives sont censées se tenir cette année.
Valérie Crova et la France se dit très préoccupée, je cite, par la situation des droits de l'homme au Cameroun. L'État néerlandais muscle encore un peu plus sa participation au sein du groupe Air France. La Haye détient désormais 14% du groupe aéronautique, étalonne donc Paris avec ses 14,3%. Les ministres de l'économie des deux pays doivent d'ailleurs se rencontrer en fin de semaine pour évoquer ce dossier.
Et puis cette question ce matin, Maxime, les pharmaciens vont-ils pouvoir délivrer en urgence certains médicaments sans attendre une ordonnance d'un médecin?
Le rapporteur La République En Marche de la loi santé va en tout cas déposer un amendement pour le permettre. Une disposition qui avait été rejetée à l'automne dernier, mais qui a cette fois des chances de voir le jour puisque c'est la majorité qui le porte. Le but, Solène Lehen, c'est bien de faciliter la vie des patients dans l'urgence.
L'idée, c'est que lorsque votre médecin traitant n'est pas disponible, un soir, un week-end par exemple, pour les petites urgences, votre pharmacien puisse vous vendre des médicaments normalement délivrés sur ordonnance. Karine Wolfthal est présidente de l'Ordre des pharmaciens.
Je vous donne l'exemple de la cystite, hein, le fameux sachet d'antibiotiques Monuril qui est la solution. On le voit notamment quand on est en garde, des patientes qui viennent avec tous les symptômes de la cystite, qui se connaissent parce que c'est habituel, qui nous demandent ce sachet qu'on ne peut pas délivrer parce qu'il faut effectivement une ordonnance, qui vont aux urgences. Passent 3 heures, 4 heures aux urgences pour avoir la prescription et qui reviennent à la pharmacie de garde rechercher la prescription.
Il faut reconnaître que souvent les pharmaciens délivrent déjà ces médicaments pour dépanner. Là, la pratique serait légale, encadrée par des protocoles en accord avec les médecins traitants et il y aurait une trace écrite. Ce qui reste à définir d'ici l'examen du projet de loi, c'est si le texte prévoit une généralisation d'emblée à toutes les pharmacies ou une première phase d'expérimentation dans quelques régions. Et puis aussi, il reste à préciser de quelles urgences on parle. Cela pourrait concerner les cystites, donc, mais aussi les conjonctivites, dermatites, angines ou rhinites.
Les précisions de Solène Lehen. Le gouvernement qui va clore ce soir la liste des patrimoines en péril. C'est le dernier jour pour déclarer des sites touristiques ou des monuments en danger au ministère de la Culture. L'an passé, grâce au loto du patrimoine, 231 projets ont pu être subventionnés. C'est bien, mais c'est encore peu, Roméo Van Maastricht, par rapport au nombre de dossiers déposés.
L'année dernière, plus de 2000 sites en péril avaient été signalés sur le site de la Fondation du patrimoine et seulement 270 ont été retenus. La demande de financement va en augmentant. Célia Véraud, la présidente de la Fondation, compte sur le soutien du public pour obtenir plus de fonds à travers le don ou les jeux de grattage.
On sait que les Français sont 12 à 15 millions à participer aux Journées européennes du patrimoine. Si on arrivait à mobiliser autant de monde, eh bien, ça créerait une assise durable pour que à la fois les Français aient conscience donc, de cette importance du patrimoine dans leur vie quotidienne et puis qu'ils acceptent de le soutenir, que ce soit à travers leurs impôts ou à travers des dons volontaires.
Pourtant, en janvier dernier, une mission parlementaire d'évaluation du loto patrimoine estimait que les fonds alloués étaient distribués de façon inégale. Plus de 70% des projets sont inscrits aux monuments historiques et reçoivent déjà des financements publics. Il faut privilégier le petit patrimoine, s'indigne Michel Larive, député La France Insoumise et rapporteur de la mission parlementaire.
L'idée, c'était de dire qu'il fallait affecter l'argent principalement aux projets qui n'étaient pas dans le fléchage des DRAC ou d'autres entités du ministère de la Culture, de manière à ne pas laisser tomber tout un patrimoine dont on ne s'occupe pas. C'est souvent du petit patrimoine et c'est celui-là qui fait la force du patrimoine culturel français. C'est celui-là qu'il faut aider en premier.
Il serait envisagé dans les prochains mois de créer de nouveaux jeux de grattage. L'année dernière, la Française des Jeux avait écoulé la totalité de son stock. Plus de 12 millions de tickets.
Les précisions de Roméo Van Maastricht. Autre patrimoine en danger, c'est l'environnement et les récents épisodes de pollution le montrent un peu plus chaque jour. Hier, le ministre de l'écologie, François de Rugy, a reçu 175 signataires de la pétition « L'affaire du siècle ». Plus de 2 millions de personnes s'étaient réunies pour demander une action en justice contre l'État pour son inaction dans le domaine environnemental. Un recours qui sera d'ailleurs déposé le 14 mars. Et ces épisodes de pollution aux particules fines touchent à leur fin aujourd'hui. Les restrictions de circulation sont levées à Paris et dans sa banlieue, mais aussi à Lille. La mesure entre en vigueur aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise. Hier, la France a battu un drôle de record. Température pour les mois de février, 21,3 en moyenne sur l'ensemble du pays. Le thermomètre qui va baisser aujourd'hui avec le retour des nuages et de la pluie, notamment sur le nord du pays. Le temps reste ensoleillé sur la Côte d'Azur. Attention au vent qui peut atteindre 80 km/h. Les minimales vont ce matin de 4 à 10 degrés, de 12 à 18 cet après-midi.